Voici une question dont la réponse est probablement déjà évidente pour plusieurs. Est-ce que l'homme gère la planète convenablement? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous fera sûrement réfléchir aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui sera peut-être un sujet de tristesse pour certains. Mais pour les croyants, quel encouragement! Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas tout de suite pour éliminer toute espèce de mal? Est-ce que le nom du Seigneur est magnifique pour les gens de nos jours? Qu'est-ce qui se produit quand le sang de Jésus n'a pas de valeur pour une personne? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous ayons une foi comme celle d'un enfant? Qu'est-ce que la création de Dieu nous révèle? Devons-nous adorer ce que Dieu a créé? Est-ce que l'homme gère la planète convenablement? Dieu est-il réellement le créateur de toutes choses? Restez là, le Seigneur va de nouveau enrichir chacune de nos vies par l'enseignement qu'il va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly au cours de cette émission. Demandons à Dieu qu'il illumine nos cœurs, nos pensées, afin qu'on comprenne bien sa parole merveilleuse. Prions. Oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Et on a besoin de ta lumière, on a besoin que tu nous éclaires pour qu'on la comprenne bien, qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de nos cœurs. Aide-nous à comprendre ta parole, à mieux te connaître, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, chers amis, nous étudions le psaume 8, un psaume messianique. Il est appelé ainsi parce qu'il est cité dans le Nouveau Testament et appliqué à la personne de Jésus-Christ. Le psaume 8 est cité à 3 reprises dans le Nouveau Testament. En fait, le Seigneur Jésus lui-même a cité ce psaume. Matthieu chapitre 21 nous donne le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Après l'entrée de Jésus en ville, les enfants criaient dans le temple, « Hosanna, ô fils de David !» Matthieu chapitre 21 verset 15. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés par cela et dirent à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Matthieu chapitre 21 verset 16. Jésus leur répondit en citant le psaume 8 verset 2. « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il disait à l'élite religieuse de son temps, l'élite religieuse du temple, que ce serait une bonne idée qu'ils lisent les Écritures afin qu'ils puissent comprendre pourquoi les enfants l'acclamaient. Christ règne, même s'il donne aux hommes le temps de se repentir. La deuxième citation se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. Le chapitre qui traite de la résurrection. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est le verset 6 du psaume 8 qui est cité. Il est évident que ce psaume ne réfère pas à notre temps. Paul ajoute, « Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. Aujourd'hui, nous ne voyons pas que toute chose lui soit soumise. Cependant, la citation la plus complète se trouve dans Hébreux chapitre 2, versets 5 à 8. En effet, si ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Notre attention est attirée sur le fait que nous vivons à une époque où tout n'est pas mis sous les pieds de Jésus. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Citation de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu laisse Satan et le monde agir un certain temps afin que tous aient l'occasion de se repentir. Il en est ainsi parce que cela fait partie du plan de Dieu. Le psaume 8 verra son plein accomplissement au retour de Jésus-Christ. Lisons Hébreux, chapitre 2, verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Le psaume 8 parle bel et bien de Jésus. Ce deuxième psaume messianique débute par la phrase suivante. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Il se termine par exactement les mêmes mots. Le nom du Seigneur est-il magnifique pour vous? Ceci ne réfère pas à notre époque contemporaine. Très peu considèrent que le nom du Seigneur soit magnifique. Combien souvent entendons-nous des personnes sacrées blasphémer le nom de Dieu, le prendre en vain dans des endroits publics? Même des personnes âgées qui ne tarderont pas à comparaître devant Dieu. Autrefois, un blasphème n'aurait pas été toléré dans un film ou même à la télévision. Aujourd'hui, c'est une chose commune. Les gens parlent peu de Dieu, même dans les débats sur des sujets tels la redéfinition du mariage, l'avortement ou tout autre sujet qui touche la famille et les convictions religieuses. Les politiciens et ceux qui siègent sur les comités d'études ne veulent pas que nous parlions de Dieu. Nous pouvons présenter tous les arguments que nous désirons, mais pas parler de ce que Dieu dit dans sa parole. Les gens rejettent Dieu délibérément. Certains veulent faire retirer tous les symboles religieux des endroits publics. Le nom de Dieu n'est pas considéré magnifique dans notre société contemporaine, et il n'est certainement pas exalté. Un ami racontait une anecdote lors de son voyage en Floride récemment. Il se trouvait sur une plage au moment du coucher du soleil. En fait, il y avait de nombreuses personnes sur la plage ce soir-là. La foule fut émerveillée par le coucher du soleil et se mit à l'applaudir. Mais personne n'a applaudi le Créateur. On a applaudi seulement la créature. Cependant, il eut un temps où le nom de Dieu et du Seigneur Jésus était davantage exalté qu'aujourd'hui, malgré que le monde ait toujours haï Dieu. Noël était une commémoration et une célébration de la naissance de notre Sauveur. Pâques était un rappel de son sacrifice à la croix, de son ensevelissement et de sa résurrection. Ce sacrifice était la solution de Dieu à nos péchés. La Pentecôte nous rappelait que le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est remplacé par le Père Noël. Le concept actuel de ce personnage fut finalisé par une compagnie célèbre de boissons gazeuses. Pâques aussi est commercialisé. Les figurines de chocolat ne rappellent pas notre grand Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est rejeté partout. Nous vivons dans une ère post-chrétienne. L'athéisme est prédominant en Europe et en Amérique du Nord. Louez le Seigneur de ce qu'il ait conservé un noyau de personnes qui l'aiment et qui proclament encore son évangile. Le premier verset du psaume 8 est une prophétie. Il parle du futur, d'un futur glorieux. C'est un psaume messianique qui nous présente l'homme de Dieu. Il met l'accent sur l'humanité du Seigneur Jésus et sa victoire ultime en tant qu'homme. Au psaume 2, nous avons vu l'homme en rébellion contre Dieu. Au psaume 8, nous voyons que l'homme prendra le contrôle de cette terre et qu'un jour viendra où on exaltera le nom de Dieu sur la planète. Son nom y sera magnifique. Qui versera son sang pour vos péchés? ce psaume est adressé au chef des chantres sur la guittite. Les psaumes 81 et 84 sont aussi adressés au chef des chantres sur la guittite. En général, les Eurydices s'accordent pour dire que la guittite est une sorte de lyre. Selon un érudit juif, cet instrument musical tirerait son nom de la ville de Gath, d'où il est originaire. David aurait pu découvrir cet instrument et apprendre à en jouer alors qu'il s'était réfugié à Gath en fuyant le roi Saül. La Vulgate, traduction latine de la Bible, et la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, traduisent le mot guittite par pressoir. Un pressoir est une machine qui presse les fruits pour y retirer le jus. En Palestine, c'est du jus de raisin que l'on produisait beaucoup. L'usage du mot pressoir peut signifier quelque chose, puisque le pressoir nous fait penser aux souffrances que le Seigneur Jésus a subies pour vous et moi. Le psaume 8 fait allusion à ces souffrances. En tant qu'homme, le Seigneur Jésus a goûté la mort pour tous les hommes. Il a goûté les souffrances du pressoir. Plus tard, Ésaïe nous parlera du Seigneur Jésus venant d'Édom. Il dit, « J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. » Ésaïe chapitre 63, verset 3. Le jus de raisin sur ses vêtements n'est pas son sang, mais celui de ses ennemis. Si le sang du Seigneur Jésus n'a pas de valeur pour vous aujourd'hui, alors vous n'êtes pas sauvés et vous serez jugés pour vos péchés. Du sang sera versé pour vos péchés. Si ce n'est celui de Jésus, ce sera le vôtre. Il en est ainsi pour nous tous. Chers amis, débutons notre lecture du psaume 8, versets 1 à 3. Au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Un enfant qui est assez âgé pour haïr Dieu et rejeter ses commandements est assez âgé pour l'aimer et marcher dans ses voies. Donc, encourageons nos enfants à venir au Seigneur dès leur jeune âge. Le Seigneur peut montrer sa puissance en utilisant des enfants pour le glorifier. Ce sont des enfants qui l'ont acclamé dans le temple après l'entrée triomphale à Jérusalem. Lorsque le Seigneur utilise des instruments faibles comme un enfant, toute la gloire lui revient. Notez que Dieu mentionne des ennemis vindicatifs. Le fait que nous puissions haïr le Dieu glorieux et créateur de ce merveilleux univers démontre que nous avons besoin d'un nouveau cœur, de passer par la nouvelle naissance. Jésus a dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Citation de l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 3 et 5. Les enfants sont un exemple de foi simple. Le Seigneur a fait ressortir la véracité de ce verset lorsqu'il a dit, alors qu'il était sur terre, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 18, verset 3. Ce sont des enfants qui ont crié, « Hosanna au fils de David !» Matthieu chapitre 21, verset 15. Ceci s'est produit après que Jésus ait fait son entrée triomphale à Jérusalem et chassé les vendeurs du temple. Ce n'était pas véritablement une entrée triomphale. C'était au deuxième retour du Seigneur que se fera la véritable entrée triomphale et qu'il établira son royaume. D'ici là, nous devons nous convertir au Seigneur Jésus et devenir comme des petits-enfants. Ceci signifie que nous devons naître de nouveau et devenir des petits-enfants. Naître d'en haut, devenir des enfants spirituels, des enfants de Dieu. Comme des petits-enfants, nous approchons le Seigneur avec une foi simple, laissant les œuvres et les mérites de côté. La foi d'un petit enfant est étonnante. Ce psaume nous présente l'Éternel comme étant le Créateur. Nous voyons la nature, la création et l'homme, une créature. C'est là la relation entre Dieu, la nature et l'homme. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. La création révèle la gloire et la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a placé la lune et les étoiles là où elles sont. Notez que lorsque les Écritures parlent du salut, elles réfèrent au bras de l'Éternel. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe, chapitre 53, verset 1er. Mais, lorsqu'elle parle de la création des cieux et de la terre, elle réfère aux mains de l'Éternel. Comme l'a dit John Wesley, « Dieu créa les cieux et la terre, et ce ne fut pas un gros effort pour lui. La création fut une œuvre qu'il fit de ses mains, tout comme le tricot qu'une femme fait de ses mains. » Alors que nous étudions la parole de Dieu avec respect, ne négligeons pas la révélation naturelle. Les ouvrages de Dieu nous révèlent sa puissance et sa gloire. La stabilité des corps célestes devrait nous encourager à faire confiance en Dieu. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas un qui fasse défaut. Ésaïe, chapitre 40, verset 26. Par contre, avec un microscope, nous voyons un monde de créatures minuscules dont Dieu prend soin. Si Dieu les voit, combien plus nous voit-il? Dieu place sa gloire au-dessus de sa création. Sa création est immense à nos yeux et nous la trouvons glorieuse. Mais nous n'adorons pas la création, nous adorons le Créateur. Écoutez ce texte tiré de l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 19. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. L'œuvre de ses mains révèle sa gloire et sa puissance. Revenons au texte. Le psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Certains essaient toujours de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'homme? Il est une créature compliquée. Il est un être humble. Il appartient à la race humaine, et des scientifiques essaient toujours d'expliquer son origine. La Bible dit que Dieu nous a créés et qu'il nous a placés sur terre. Ensuite, l'homme prit un mauvais virage. Il ne crut pas Dieu et lui désobéit. Pourquoi est-ce que Dieu se préoccuperait de l'homme? Pourquoi Dieu n'a-t-il simplement pas éliminé la race humaine? L'homme gère la planète lamentablement. La gestion planétaire de l'homme est un échec. Nous n'aimons pas entendre cela. Nous aimons entendre parler de succès. Un homme qui ne connaît pas de succès dans son travail est malheureux. L'humanité n'a pas connu le succès. Elle a connu un lamentable échec. Regardez le désordre dans lequel elle a mis la planète. Le psalmiste demande, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Je vais vous dire pourquoi l'homme est important. Jésus est venu lui rendre visite il y a environ 2000 ans. Il est venu sur terre et il est mort sur une croix afin que nous sachions qu'il nous aime. Il ne nous a pas sauvés par son amour, mais par grâce par sa grâce. Nous n'avions rien à offrir à Dieu. Nous ne le méritions pas d'être sauvés. Cependant, Dieu, le Fils, est venu sur terre. Il est venu parmi nous pour y mourir sur une croix. C'était son but. Cela faisait partie de son plan de salut pour nous. Il nous a sauvés par le moyen de la grâce. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Lorsque le Seigneur Jésus visitait la terre dans l'Ancien Testament, il se présentait comme l'ange de l'Éternel. Mais lorsqu'il est venu à Bethléem, il a pris une forme inférieure, il a pris un corps d'homme. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. L'homme a reçu la domination de la terre, mais il a perdu le contrôle de celle-ci. Avec le développement de la science, les hommes pensaient reprendre le contrôle, mais la science ne nous a servi qu'à polluer la planète. Notre planète n'est qu'une gigantesque poubelle. Si vous avez fait de la science votre Dieu, et que vous voulez vivre ailleurs que dans une poubelle, vous avez besoin du secours de Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Cela n'est pas encore fait. Nous devons attendre le retour de Jésus-Christ. Jésus fut fait temporairement inférieur à Dieu, le temps de mourir pour nos péchés. Jésus a accompli la tâche que Dieu lui avait confiée. Il n'est plus sujet à la tentation. Il en sera ainsi avec nous alors que nous régnerons avec lui pour l'éternité. Versets 8 et 9. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Dieu est le Créateur de toutes choses. Dieu a tout créé. Il est le Créateur. Dieu a créé tous les êtres vivants dans les airs, sur terre et dans la mer. Il nous a créés, vous et moi. Paul dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains, chapitre 1, verset 20. Nous voyons les ouvrages de Dieu partout autour de nous. Verset 10. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Aujourd'hui, le nom du Seigneur n'est pas magnifique sur la terre, mais il le sera un jour. D'ici là, nous vivons dans un monde qui soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains, chapitre 8, verset 22. Mais Dieu est au-dessus de toute la création. Sa gloire est plus élevée que les cieux. Auprès de Dieu se trouve l'homme qui est venu naître à Bethléem il y a environ 2000 ans. Il est assis à la droite de Dieu. C'est seulement par la foi que nous pourrons le voir. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Écoutez ce texte. Les versets 5 à 8. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et à cela je rajoute le verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant les psaumes 9 à 11. Bonne lecture à tous. Au revoir.
Merci, Régent. Tu as dit que Dieu laissait Satan et le monde agir pendant un certain temps, afin que tous aient l'occasion de se repentir. Je trouve donc que Dieu est patient envers nous. Pour ma part, j'ai dû vivre pendant 30 ans avant de réaliser que Dieu voulait avoir une relation personnelle avec moi, qu'il voulait me pardonner mes péchés et me donner une vie toute nouvelle, la vie éternelle. Oh, combien je suis reconnaissante envers lui, qu'il n'ait pas permis que je meure avant de rétablir ma relation avec lui. Mes amis, Dieu avait essayé de m'interpeller un an plus tôt, mais j'étais trop orgueilleuse pour écouter la personne qu'il avait placée sur mon chemin pour m'annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. Et pendant toute une année, j'aurais pu mourir plusieurs fois, alors que je conduisais en état d'ébriété ou sous l'influence d'une drogue quelconque, sans compter que j'avais eu le cancer à l'âge de 27 ans. Dieu aurait pu me laisser mourir dans le péché, et j'aurais été privée de sa présence pour l'éternité. Mais dans sa bonté, il a placé une autre personne sur mon chemin, et cette fois-là, j'ai écouté. Pas juste avec mes oreilles, mais avec mon cœur. Mon ami, en ce moment, c'est peut-être à toi que Dieu veut parler. Jésus ne viendra pas sur la terre pour te supplier de croire en lui. Depuis qu'il est remonté au ciel, le moyen qu'il a choisi pour parler à l'homme, c'est par la bouche de ceux qui ont reçu son esprit, ceux qui se sont repentis, qui ont cru en Jésus seul pour être sauvés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. L'apôtre Paul dit au 5e chapitre de sa 2e épître aux Corinthiens, de la fin du verset 19 jusqu'au verset 21, que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation et que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et il ajoute, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Mon ami, Dieu veut que tu sois réconcilié avec lui. Mais il faut premièrement que tu reconnaisses, comme je l'ai fait un jour, que tu es séparé de lui à cause du péché. Mais si tu es une bonne personne, tu imagines peut-être qu'il y a juste les adultères, les débauchés qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu. Mais Paul nous dit, dans son épître aux Romains, qu'on est tous des pécheurs. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Il a payé cher pour te sauver, mais il ne te sauvera pas malgré toi. J'aimerais t'encourager à laisser de côté tout ce qui pourrait t'empêcher de placer ta confiance en lui seul pour être sauvé. Oublie ce qu'on pourrait penser de toi. Oublie tes ambitions terrestres. Tu ne pourras pas les apporter avec toi quand il sera temps que tu quittes cette terre. Détourne-toi de tout ce que tu reconnais comme étant péché et tourne tes regards, ton cœur, vers Jésus qui te tend les bras en ce moment même. Jésus veut te sauver. Il a tout payé à la croix pour t'offrir la vie éternelle. Juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Prends ce beau cadeau maintenant. Il te l'offre en ce moment. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Accepte le beau cadeau de la vie éternelle. Je t'en supplie, ne refuse pas de te réconcilier avec Dieu.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.